France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Hier à Davos, alors que Donald Trump, encore lui, lançait son conseil pour la paix, son gendre et principal conseiller Jared Kushner a présenté son plan pour Gaza, un plan directeur futuriste qui inclut l'amnistie pour les terroristes du Hamas qui déposeront les armes, la construction d'un port et d'un aéroport étant également imaginée. Mais alors, conseil de la paix, les Gazaouis peuvent-ils en espérer quelque chose? Comment organiser la transition politique? L'instance de Donald Trump peut-elle y parvenir? Deux invités pour nous éclairer ce soir. Laetitia Bucaille, bonsoir.
Bonsoir, Quentin Lafay.
Vous êtes professeur de sociologie politique à l'INALCO, l'Institut national des langues et des civilisations orientales, chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, et membre de l'Institut universitaire de France, et l'autrice du livre intitulé « Gaza, quel avenir ? » point d'interrogation, qui a paru aux éditions Stock en octobre dernier. Face à vous, Belir Nabli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en droit public, membre de l'association Jurdi, juriste pour le respect du droit international et l'auteur de l'ouvrage intitulé « L'état de droit » qui a paru l'an dernier aux presses universitaires de France. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir. Et l'on va parler bien sûr des forums, des grands congrès, des discussions de couloirs, des négociations entre guillemets de haut niveau. Mais je voudrais qu'on commence cet échange par l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui se passe sur le terrain à Gaza depuis le cessez-le-feu du 10 octobre. Il y a encore près de 500 morts, 500 Gazaouis, dont 3 journalistes cette semaine même. 3 morts également du côté de l'armée israélienne. A-t-on vraiment signé la fin de la guerre à travers ce cessez-le-feu? Laetitia Bucaille, pour commencer.
Un cessez-le-feu, c'est pas tout à fait la fin de la guerre, effectivement. Alors, bien sûr, il y a encore des morts et c'est à déplorer. Beaucoup de... essentiellement du côté palestinien, quelques bombardements qui continuent, des gens qui sont abattus pour être du mauvais côté de la ligne jaune qui sépare la bande de Gaza en deux parties, une partie contrôlée par l'armée israélienne et l'autre partie qui continue à être contrôlée par le Hamas. Mais la violence a considérablement baissé en intensité. Les Gazaouis sont en partie soulagés. En partie, bien sûr, parce qu'il reste d'énormes problèmes et qu'ils vivent dans des conditions qui sont toujours épouvantables. Et alors que l'hiver est présent et que la météo n'a pas beaucoup aidé les Gazaouis à vivre sous des tentes, il y a eu des intempéries.
Froid également qu'on a du mal à concevoir.
Oui, il y a des enfants qui sont morts de froid il y a peu de temps. Les infrastructures hospitalières sont toujours dans un état déplorable. Donc il y a des gens aussi qui continuent de mourir des suites de leurs blessures. Et comme Rafah n'a pas ouvert, comme le point de passage vers l'Égypte n'a pas ouvert, c'était prévu notamment que des blessés soient évacués. Tous les gens qui ont besoin de soins meurent en fait faute de soins.
Chaque semaine, Belir Nabli, un camp accuse l'autre de briser le cessez-le-feu. Est-ce que ce cessez-le-feu, effectivement, a tout de même permis une nette amélioration pour les Gazaouis eux-mêmes dans leur vie de tous les jours?
Forcément, tout est relatif en l'espèce. D'un côté, effectivement, il y a une baisse de l'intensité de la violence armée. Mais de l'autre, dès lors que vous avez un rapport de force qui se caractérise par une domination militaire des Israéliens, ces derniers, en réalité, exercent ce rapport de force et continuent, d'une certaine manière, à poursuivre leur but de guerre, à savoir l'élimination du Hamas, puisque tel était l'objectif depuis le début de l'offensive post-7 octobre. Le problème, c'est que l'essentiel des victimes, et là on retrouve une équation qui remonte à avant le cessez-le-feu, l'essentiel des 500 victimes que vous avez rappelées sont des civils. Il y a parmi eux une centaine d'enfants, des journalistes. Bref, on retrouve ce qui est constitutif de ce conflit, à savoir des crimes de guerre, tout simplement, qui sont commis dans la mesure où des civils sont ou représentent l'essentiel des victimes des opérations militaires menées par l'armée israélienne. C'est un problème fondamental et qui renvoie par miroir puisque on est d'accord sur la baisse de l'intensité du conflit. En même temps, vous avez en Cisjordanie, c'est-à-dire concrètement à quelques kilomètres, une intensification des opérations à la fois militaires, des opérations terroristes des colons israéliens.
Un processus de colonisation qui s'accélère.
Oui, avec le soutien de l'appareil d'État, de l'appareil militaire, et donc un soutien politique assumé par le gouvernement Netanyahou. Et c'est l'autre fait majeur de cette séquence, c'est qu'en réalité, Gaza mérite naturellement notre attention eu égard à la nature des crimes qui y sont commis, mais en réalité, en Cisjordanie, la Cisjordanie appartient ou fait partie de la même dynamique conflictuelle.
Je reviens un instant à Gaza, Laetitia Bucaille. Le Monde a fait paraître, le journal Le Monde a fait paraître il y a quelques jours un article qui racontait la réouverture de certaines universités, de ces étudiants gazaouis qui peu à peu repeuplaient les amphithéâtres de Gaza. Est-ce que, en parallèle de ces crimes de guerre qui continuent, de ces violences qui se poursuivent, est-ce que la vie reprend tout de même peu à peu à Gaza ?
La vie ne s'est jamais complètement arrêtée, puisqu'en fait, pendant ces 2 ans de guerre, même si les salles de classe et les salles des universités étaient fermées, beaucoup de jeunes Gazaouis ont continué à étudier depuis leur téléphone portable, en suivant des cours en visioconférence, et ont fait ce qu'ils pouvaient. Certains ont passé des examens, certains ont passé leur baccalauréat à distance, etc. Donc ça ne s'est jamais complètement arrêté, mais évidemment c'est dans des conditions terribles. Là, ce qui est possible, c'est un retour dans quelques endroits qui n'ont pas été totalement détruits, et où une vie de classe se reprend. Mais les Gazaouis ont continué à essayer de vivre, à commencer par se nourrir, par dormir, et pour certains, effectivement, travailler, et d'autres, étudier.
Je voudrais qu'on évoque ce Conseil de la paix qui a été lancé hier à Davos par le président américain en très très grande pompe. Un Conseil de la paix qui, selon ses propres statuts, se définit comme une organisation internationale qui vise, je cite, à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits, au premier rang desquels Gaza. On va y revenir, mais d'abord, Belir Nabli, sur cette structure du point de vue juridique, du point de vue même du droit international, qu'est-ce qu'elle vous évoque ?
Mais elle est caractérisée par un contraste entre, d'un côté, le fait que formellement, elle renvoie à ce qu'on appelle une organisation internationale, c'est-à-dire intergouvernementale, puisque vous avez, à travers l'initiative du président Trump, l'adhésion d'un certain nombre d'États qui ont donc répondu à son invitation et qui vont adhérer ou qui ont adhéré à cette organisation, l'expression de leur volonté souveraine de participer donc à une organisation de coopération interétatique. Donc on est dans un schéma relativement classique, même si le rôle joué par l'administration Trump est tout à fait singulier. Mais cette singularité, elle est d'une autre nature du point de vue matériel, c'est-à-dire du point de vue du contenu de la charte, c'est-à-dire du traité fondateur de cette organisation, où là, pour le coup, on est dans quelque chose de sans précédent, ou presque, parce que c'est une organisation qui prévoit et qui consacre une centralité de la personne même de Donald Trump, à la fois en tant que président des États-Unis, mais aussi, à travers sa personne même, puisque pour vous donner un exemple, il est prévu dans cette charte, donc dans ce traité fondateur du Conseil de la paix, qu'il pourrait rester en exercice au-delà même de l'expiration de son mandat.
Donc, mandat de président.
De son mandat de président des États-Unis, donc au-delà de son statut de chef d'État. Et donc là, on a quelque chose de tout à fait singulier qui vient traduire finalement la nature même de cette entité qui est là pour répondre à son ambition fondamentale, celle d'incarner un faiseur de paix à l'échelle mondiale et incarner d'une certaine manière la puissance américaine, mais à travers une personne qui devrait finalement exercer le rôle qui traditionnellement est incarné par l'ONU, et là c'est l'autre enjeu de ce Conseil de la paix, qui risque de neutraliser la légitimité et l'effectivité de l'ONU.
Voilà ce qu'en dit la chercheuse Elisabeth Shepard-Selam dans la revue en ligne The Conversation. Elle l'écrit, derrière l'affichage diplomatique de ce Conseil de la paix, c'est une logique de communication politique qui domine. Le lancement à Davos a surtout mis en scène un dispositif centré sur Trump, sans cadre juridique clair ni mandat précis, laissant planer la plus grande ambiguïté sur sa nature, institutions internationales, forums informels ou structures privées adossées à la Maison Blanche, pour un point d'interrogation. Et fin de citation, Laetitia Bucaille, est-ce que c'est d'abord et avant tout le grand flou et la personnalisation à travers Donald Trump qui caractérise ce nouveau Conseil de la paix?
Oui, alors, c'est-à-dire qu'on voit cette ambition de devenir un dictateur en interne à l'intérieur des États-Unis et puis dans le monde entier, finalement.
Un dictateur?
Oui, parce qu'il veut décider seul, en fait. Ce Conseil de la paix, il y a quelques apparences du multilatéralisme. Enfin, ça ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on fait habituellement pour construire des institutions multilatérales. Absolument pas. Là, en fait, il s'agit d'adouber, il s'agit de soutenir Donald Trump dans son initiative. Et d'ailleurs, il a fait appel en premier à certains dictateurs, à ses dictateurs préférés, comme il les appelle quelquefois, parce qu'il savait qu'il aurait leur soutien. Mais en fait, y a cette ambition, c'est-à-dire que c'est pas seulement un coup comme ça de folie, et c'est pas uniquement du flou, parce que il y a une volonté de prendre le contrôle de certaines zones du monde. C'est-à-dire que de faire la paix au Moyen-Orient, à Gaza, en Ukraine ou ailleurs, c'est pas gratuit, en fait. Il s'agit quand même de prendre le contrôle de ces zones. Et pas forcément de les administrer politiquement, hein. Gaza va pas devenir un État des États-Unis, mais de contrôler des ressources, ça c'est un enjeu. Ça c'est un enjeu. Et il s'agit aussi, hein, dans le même temps, c'est aussi un des objectifs du président américain, de ce qu'il conseille, etc., d'une partie de la droite américaine, de l'extrême droite européenne, c'est aussi de saper les institutions internationales. On connaît la détestation qu'ont ces gens à l'égard de l'ONU, des institutions internationales, qu'ils estiment dispendieuses, inefficaces, etc. Il s'agit de les saper par le haut, et Israël se charge de les tuer en bas en interdisant l'accès à Gaza, à Cisjordanie, à Jérusalem, de l'UNRWA, par exemple, hein, d'une des agences des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés, et des ONG, des grandes ONG, qui vont être interdites d'accès dans les territoires palestiniens.
Et l'on précise par ailleurs que si chaque État a un droit de rejoindre ce Conseil de la paix, s'il souhaite obtenir un siège, il faut verser $1 milliard à l'administration Trump. Je voudrais vous faire entendre le principal conseiller de Donald Trump et gendre de Trump par ailleurs, Jared Kushner. Il s'exprimait en parallèle de ce lancement du Conseil de la paix à Davos et explicitait sa vision, son plan quant à l'avenir de Gaza.
Le président Trump dit souvent que Gaza recèle un potentiel incroyable. Ce projet est destiné au peuple de Gaza. Nous commencerons par Rafah, avec la construction de nombreux logements pour les travailleurs. Nous pensons que cela pourrait être réalisé en 2 ou 3 ans. Ce pourrait être un espoir, une destination, un lieu avec une forte activité industrielle, un endroit où les habitants peuvent s'épanouir et trouver de bons emplois. Nous pensons que cela donne vraiment au peuple gazaoui l'opportunité de réaliser ses aspirations. Mais tout commence par la sécurité et la gouvernance. Alors au cours des 100 prochains jours, nous allons continuer à travailler sans relâche pour que ce projet soit mis en œuvre.
On va entrer bien sûr dans le détail de ce plan Belir Nabli, mais comment analysez-vous la philosophie même telle qu'elle a été décrite, avancée par Jared Kushner hier ?
Alors, juste un petit mot sur le Conseil de la paix pour vraiment qu'on soit convaincu de son étrangeté. Contrairement à l'ONU, tous les États ne peuvent pas y adhérer. Il faut préalablement avoir l'accord du président du Conseil de la paix, à savoir Donald Trump. Donc, c'est pas une organisation universelle. Et deuxièmement, celui-ci dispose d'un droit de veto exclusif. Contrairement au Conseil de sécurité de l'ONU, où le droit de veto est finalement est une prérogative exorbitante, mais dont 5 États peuvent en jouir, là, seuls les États-Unis pourraient exercer un tel pouvoir de décision d'empêchement. Donc, sur le plan pour Gaza, il est tout à fait significatif de ce qu'il est depuis le début, à savoir un plan qui procèdent de l'esprit d'acteurs qui, a priori, ne connaissent pas ni l'histoire du conflit, ni la réalité des populations concernées. C'est-à-dire que ce sont des promoteurs immobiliers, finalement, qui transposent ou transfèrent leur fantasme sur ce territoire, qui voient la possibilité de construire un complexe immobilier de luxe, un complexe touristique qui, en réalité, serait le miroir de ce qui existe par ailleurs dans le Golfe. Donc, c'est vraiment l'expression d'une image fantasmagorique et qui n'a rien à voir avec les enjeux et avec les réalités vécues sur le terrain. Et c'est ça qui est très saisissant, c'est la déconnexion entre ce type de discours qu'on vient d'entendre, ce qu'il traduit en termes de représentation de cette région, et la réalité des Gazaouis telle qu'on l'a entendue, à savoir des humains, des êtres humains confrontés à l'absence d'infrastructures primaires susceptibles de leur permettre de survivre. C'est ça la réalité de Gaza aujourd'hui. Et on entend parallèlement, dans la bouche de ces conseillers spéciaux de Donald Trump, lorsqu'il parle de Gaza, de complexes de luxe, etc. Enfin, cette déconnexion est tout à fait saisissante et elle renvoie à une réalité politique encore plus fondamentale, à savoir que ce plan Trump, ce plan de paix, il a un grand absent dans sa conception. Ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui, contrairement au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire finalement la possibilité des peuples à pouvoir exprimer souverainement ce qu'ils souhaitent en termes de destin commun et donc de s'organiser, y compris en tant qu'État, ce droit à disposer d'eux-mêmes est complètement bafoué, ignoré. Ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui sont ignorés et donc on a affaire à un plan qui a été conçu par Donald Trump, ses conseillers, en concertation avec les Israéliens. Et donc, les Palestiniens sont complètement balayés d'un revers de main. Et conséquence, on a ce type de plan complètement déconnecté avec leur réalité.
Il y a tout de même un comité technocratique composé de 15 personnalités sous palestiniennes. Mais on y reviendra, car effectivement, il est placé sous la tutelle, pratiquement sous la tutelle américaine. Laetitia Bucat, je voudrais vous faire commenter peut-être la principale proposition avancée hier dans le plan de Jared Kushner. Les membres du Hamas, les terroristes du Hamas, même pour reprendre les termes exacts, seront récompensés par une amnistie et une réintégration ou par un passage sûr, fin de citation. Certains terroristes seront même intégrés à la nouvelle force de police palestinienne après un contrôle rigoureux. Cette proposition, étrange par ailleurs, comment est-ce que vous l'analysez ?
C'est une proposition étrange, oui et non. C'est une proposition étrange par rapport à ce que Israël exige et martèle depuis plus de 2 ans, évidemment.
Mais même par rapport au discours américain depuis 2 ans.
Oui, enfin, il y a toujours eu des ambiguïtés quand même avec le Hamas. Il ne faut pas oublier que l'administration américaine a discuté directement avec le Hamas, notamment pour faire libérer un des otages israélo-américain, et qu'ils n'ont pas hésité. Hein. Voilà, il n'y a pas de scrupules éthiques pour s'empêcher de parler à une organisation comme telle. Même si, effectivement, il y a eu des menaces aussi de la part de Trump pour dire « si vous ne nous écoutez pas, on va vous taper dessus et vous allez voir ce que vous allez voir ». C'est-à-dire que peut-être que là, il y a un peu de pragmatisme. C'est que ce qu'on fait généralement quand on termine une guerre et qu'on veut démobiliser des combattants, effectivement, on les désarme. Mais généralement, il faut les réintégrer quelque part. Et généralement, on les réintègre dans des forces de sécurité. Alors évidemment, on peut prendre un risque en les intégrant dans des forces de sécurité, mais probablement, on prend un risque encore plus grand en les laissant dans la nature.
Donc c'est une bonne piste, c'est une solution là qui est dessinée, qui vous paraît crédible, Laetitia Bucat.
Vous voulez dire alors dans le sens faisable ?
Les deux, c'est-à-dire même dans l'idée, est-ce qu'au fond c'est la bonne piste qu'il faut envisager aujourd'hui ?
C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien à quoi va ressembler une administration palestinienne. Il faudrait qu'il y ait une administration palestinienne digne de ce nom pour pouvoir absorber des gens dans des services de sécurité. Et il faudrait que ces services de sécurité servent véritablement à quelque chose et qu'il y ait des perspectives politiques pour que ça puisse fonctionner. Mais en fait, le pire, quand on termine une guerre, c'est justement de laisser un certain nombre d'acteurs sur le côté. Et là, je parle d'un point de vue, d'un point de vue pragmatique, parce que ces acteurs qui ne sont pas intégrés, qui sont laissés sur le côté, risquent de nuire. Donc, il vaut mieux les neutraliser en les absorbant d'une façon ou d'une autre. Après, il reste à savoir si ces gens du Hamas accepteront, mais visiblement, on leur propose une autre option qui est de s'extraire de Gaza. Après, il est possible aussi qu'il reste de toute façon des ex-combattants ou des futurs combattants, des vocations qui se créent, du Hamas ou d'autres formations et qui veulent continuer à s'en prendre à Israël.
Belir Nabli, sur cette proposition.
Je la trouve complètement surréaliste du point de vue israélien, dans la mesure où, premièrement, le Hamas, pour des raisons qu'on imagine, est perçu non seulement comme une organisation terroriste, mais une organisation à éradiquer, pour reprendre vraiment les éléments de langage qui sont tenus depuis le 7 octobre. Et par ailleurs, il faut rappeler que des Palestiniens qui n'ont rien à voir avec le Hamas, qui seraient simples civils, et qui, malgré tout, en tant que civil, expriment une opposition politique à la condition, à leur condition, au statut de territoire occupé, colonisé en Cisjordanie. Ces Palestiniens-là, beaucoup d'entre eux, en tous les cas, sont dans des prisons israéliennes, sans procès, sans savoir pour quelles raisons. Bref, dans des situations, dans une condition qui échappe à l'état de droit, et qui sont traités de telle manière qu'on a du mal à pouvoir imaginer que des membres du Hamas puissent bénéficier, du point de vue des Israéliens, d'une forme d'amnistie, tout simplement. Parce que derrière la proposition américaine, formellement, c'est une amnistie qui serait prévue, mais qui supposerait l'acceptation préalable des Israéliens. Or, lorsqu'on sait que de simples Palestiniens qui, dans leur militantisme appelant à lutter contre la colonisation, l'occupation, le système d'apartheid subi en Cisjordanie, se trouvent déjà, pour ce simple motif traiter en tant que prisonnier politique et voire être torturé, franchement, j'ai du mal à imaginer que des membres du Hamas puissent parallèlement bénéficier d'une quelconque amnistie. On pourrait être plus qu'étonné.
Laetitia Bucaille, vous souhaitez réagir?
Oui. Alors après, il y a différents membres du Hamas. C'est-à-dire qu'il y a des membres combattants, ce qu'on peut nommer terroristes et qui ont participé à des actions contre Israël. Après, il y a des membres de l'administration civile qui n'ont pas combattu, qui faisaient partie de l'administration sous toutes ses formes variées. Et on peut imaginer que ces personnes-là sont réintégrées, même si elles ont un lien avec le Hamas. C'est-à-dire qu'il faut aussi retenir la leçon de ce qui s'est passé en Irak avec le BAS, quand les Américains ont voulu complètement démonter l'appareil d'État.
Le BAS qui était le parti de Saddam Hussein. Hein.
Au pouvoir, et qu'ils ont voulu enlever tous les membres du BAS, on a détruit complètement l'État. Là, il s'agit pas d'être juste ou de plaire forcément aux Israéliens. Hein. C'est pas une question de justice. C'est une question de pragmatisme. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que Israël, généralement, s'est toujours réservé le droit d'intervenir et de punir qui elle voulait là où il voulait. Hein. Et donc, y compris au Qatar ou ailleurs. Donc, on peut imaginer aussi que s'il y avait des membres du Hamas prééminents qui étaient à Gaza et qui avaient un peu trop de place, ils pourraient très bien se faire éliminer.
Au-delà, Belir Nabli, comment organise-t-on la démilitarisation du Hamas? Car c'est bien l'un des objectifs, l'un des principaux objectifs de la phase 2 du plan Trump pour Gaza.
Alors, c'est d'abord une question qui se pose, je dirais, pour le Hamas, parce que c'est une question existentielle. Le rapport de force qui a permis au Hamas de s'imposer à Gaza, c'est un rapport de force d'abord militaire. Même s'ils ont gagné des élections, il faut le rappeler à un moment donné, mais le mandat dont ils ont bénéficié a expiré. Ils se sont imposés notamment vis-à-vis du Fatah, c'est-à-dire l'entité politique principale de l'autorité palestinienne, à travers un rapport de force militaire. Donc, se démilitariser, c'est reconnaître à la fois une défaite militaire face à Israël et s'affaiblir dans le rapport de force interne ou intra-palestinien. Donc c'est aussi une perspective qu'on a du mal à imaginer. Et d'ailleurs, c'est une perspective qui aurait dû commencer à se matérialiser au regard du plan Trump et qui est loin pour l'instant de s'être traduit en acte. Là, pour le coup, c'est une vraie question et qui renvoie aussi à l'autre élément du plan Trump, c'est la force internationale qui est censée entrer et assurer aux côtés de l'entité technocratique pour assurer la police interne, intérieure à Gaza, une force internationale qui serait composée de différents États. Mais pour l'instant, ça reste relativement théorique. Il y a pas mal de freins. Et d'ailleurs, Israël appose son veto vis-à-vis d'un certain nombre de propositions, notamment les Turcs ont proposé d'engager des hommes à eux sur le territoire de Gaza, ça a été rejeté.
Le plan d'hier, évoqué par Jared Kushner, ne mentionne pas de force d'interposition internationale. Il en oublie pratiquement l'existence. Laetitia Bucca, je reviens sur cette démilitarisation du Hamas. D'une manière très concrète, pragmatique, comment est-ce que vous imaginez sa mise en œuvre ?
Mais c'est bien le problème. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en 2 ans de guerre, Israël, qui a quand même des forces considérable et qui n'a pas hésité à s'en servir avec excès, comme ça a été souligné, qui a commis un certain nombre de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, n'a pas réussi à éradiquer le Hamas. Donc, qui pourra demain éradiquer le Hamas ? C'est quand même un problème. Enfin, c'est quand même une énigme. Hein. Ça sera sans doute pas une force d'interposition avec des forces étrangères qui connaissent pas le terrain, et ça sera pas non plus des policiers du Fatah qui auront les moyens de faire ça. Donc ce qu'on peut le plus efficace, c'est quand même sans doute de négocier avec des gens du Hamas qui veulent bien négocier. Et ce qui a été dit, c'est que sans doute on pourrait les faire accepter de rendre leurs armes lourdes, les roquettes. Bon, probablement ils n'en ont pas énormément, mais qui serait quand même extrêmement difficile de leur confisquer leurs armes légères. Donc ça, il est possible que des armes soient conservées à Gaza pendant un certain temps.
Sur le plan Trump, toujours, et sur la façon dont les Gazaouis eux-mêmes sont intégrés à la conception de l'avenir du territoire de Gaza, je le disais, un comité technocratique a été mis en place, comité qui compte 15 personnalités palestiniennes, originaires des lieux validés par les factions palestiniennes, Belir Nabli, là aussi... C'est un faux comité, au fond c'est une fausse intégration des Palestiniens à ce processus parce que, encore une fois, dans l'organigramme, les Américains sont au-dessus d'eux.
Il y a incontestablement une mise sous tutelle d'une telle entité de nature technocratique, mais qui dépendrait politiquement, et donc qui dépendrait du point de vue de sa capacité à agir à Gaza, du Conseil pour la paix ou de la paix, qui, elle, est présidée par le président Trump et qui a un logiciel pro-israélien qui n'a pas à être démontré. Donc à partir de là, on retombe sur l'équation fondamentale qui est que les Palestiniens sont exclus de la définition même de leur destin sur le plan politique, avec comme perspective ce droit à l'autodétermination et la perspective soit de créer leur propre État, soit de s'investir, s'engager pour une solution d'un État binational. Mais c'est à eux de s'exprimer souverainement en la matière. Je voudrais ajouter que parallèlement à ce plan Trump qui a cette faculté à s'imposer, à écraser le narratif autour de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, il y a ce rythme, le temps judiciaire international qui continue, hein, et donc parallèlement, permettez-moi de rappeler que, en dépit des avancées diplomatiques, même apparentes, vous avez toujours un premier ministre israélien qui est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, et ça reste toujours à l'ordre du jour, et vous avez un recours devant la Cour internationale de justice qui poursuit Israël donc pour génocide, et donc il y a une instruction en cours, et rien n'est joué de ce point de vue-là, ça va prendre du temps, mais a priori, il y aura une décision de justice historique et qui engage aussi le statut symbolique d'Israël.
Le Premier ministre israélien, justement, je voudrais vous faire commenter, Laetitia Bucaille, l'une de ses citations en réaction à la mise en place de ce Conseil pour la paix. L'annonce, dit Benjamin Netanyahou, l'annonce de la composition du comité directeur de Gaza, qui relève du Conseil de la paix, n'a pas été coordonnée avec Israël et va à l'encontre de sa politique. Est-ce qu'on a là une désynchronisation des avis et des intérêts politiques entre le Premier ministre israélien et le président américain ?
Il semble que ça a été dit plutôt pour des motifs de politique intérieure, pour montrer que Netanyahou résiste à certaines exigences américaines, les Américains étant bien obligés aussi de tenir compte de l'avis de certains alliés comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc.
Donc c'est une déclaration de façade.
Mais cela dit, c'est une vraie question au fond. Comment est-ce que les intérêts israéliens et les intérêts américains ou les décisions américaines vont s'articuler ? Parce que ce plan est flou, oui et non, parce qu'il y a un vrai projet derrière. Cela dit, la mise en œuvre, l'architecture institutionnelle est extrêmement compliquée. C'est vraiment un millefeuille de différentes instances. Et on peut se demander justement si les Israéliens vont arriver à tirer leur épingle du jeu et faire entendre toutes leurs exigences sécuritaires vis-à-vis de Gaza.
On a le sentiment quand même, pardonnez-moi de vous couper, que dans ce plan et même dans les relations diplomatiques que le président américain entretient avec Israël, Israël et le Premier ministre israélien en l'occurrence sont peu à peu mis à l'écart depuis quelques mois, et notamment dans la conception, la pensée de ce plan.
Oui, mais cela dit, je crois qu'un certain nombre d'Israéliens adhèrent aussi à certains objectifs de ce plan, c'est à savoir ne plus parler du tout de cette question de nation palestinienne.
Vous dites certains Israéliens, de qui parlez-vous ?
De la droite israélienne, mais même beaucoup plus largement. Après le 7 octobre, beaucoup d'Israéliens considèrent que cette question d'un État palestinien ou d'une nation palestinienne, qu'il ne faut plus en parler, que ce n'est plus acceptable. Donc transformer un territoire qui était justement le fer de lance du nationalisme palestinien, Gaza, en une espèce de zone économique contrôlée qui devient un protectorat international. Mais l'objectif des Israéliens, premier, c'est pas de faire de l'argent sur Gaza, c'est que les Palestiniens soient totalement contrôlés, dominés, enfermés à Gaza, et qu'ils ne puissent plus menacer d'une quelconque façon Israël.
D'ailleurs, précisons que le plan qui a été présenté hier parle toujours de Gaza, jamais de la Palestine, Bélir Nabli.
Oui, c'est vrai qu'on retrouve d'une certaine manière une forme de fantasme qui ne date pas d'aujourd'hui et qui remonte notamment à des plans qui ont été proposés, ou un plan proposé par l'ancien Premier ministre Peres, qui voyait à travers un prisme économique une solution au conflit israélo-palestinien et même au conflit régional. C'est-à-dire trouver, autrement dit, la paix par le développement économique. C'était un peu l'équation proposée à cette époque. Aujourd'hui, c'est carrément la paix par un projet immobilier, pour être caricatural et reprendre un peu le part de vulgarité dans le projet qui a été exprimé et présenté hier. Donc on retrouve cette déconnexion-là, mais ancrée, et c'est vrai que c'est aussi déconnecté du regard israélien qui, lui, appréhende la question palestinienne à travers un prisme sécuritaire et strictement sécuritaire. Résultat, aucun de ces deux acteurs dominants, du point de vue de leur capacité à imposer leur volonté sur les Palestiniens, aucun de ces acteurs ne prend en considération sérieusement la dimension politique, c'est-à-dire la question de l'avenir politique des Palestiniens. Ce qui renvoie d'une certaine manière aussi au traitement des Palestiniens durant la guerre elle-même. Parce qu'au-delà de leur existence, c'est effectivement, la difficulté à admettre leur existence s'est traduite aussi par ce sentiment de déshumanisation des Palestiniens, la difficulté à admettre leur souffrance et de voir la manière dont ils ont été finalement, j'allais dire presque éradiqués.
La voix du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, il s'exprimait aujourd'hui sur BFM TV.
L'essentiel, c'est que ce plan de paix passe de sa phase 1 à sa phase 2, que les points de passage humanitaires puissent être ouverts, que l'autorité palestinienne puisse se réformer pour progressivement pouvoir prendre en charge l'administration de Gaza lorsqu'elle sera prête, et que le processus de désarmement du Hamas puisse être enclenché. C'est la priorité qui a été celle de la France depuis longtemps, que nous avons inscrit dans un autre texte des Nations Unies qui a été adopté à l'immense majorité des pays du monde, et c'est ce à quoi nous appelons le Board of Peace, évidemment, à contribuer. Et tout ce qui ira dans ce sens-là, nous le soutiendrons.
Le Board of Peace, le comité de l'appel. Laetitia Bucaille, vous souhaitiez revenir sur la position française sur ce conflit.
Oui, bon. Là, évidemment, la France court un peu après le train qui est le train de Trump qui va très vite et donc resserre le discours habituel qui bon des deux États, de la réforme de l'autorité palestinienne. On se demande si c'est vraiment le problème, mais je tiens à dire que voilà, malgré cette position peut-être courageuse vis-à-vis de Trump et d'avoir refusé de participer. Au comité de la paix et à s'incliner devant Trump. En tout cas, la France, vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis des Gazaouis, fait très peu, puisque le gouvernement français vient de décider de ne plus inclure les Gazaouis, les universitaires, les artistes de Gaza, qui pouvaient demander l'asile via le programme PAUSE, piloté par le Collège de France, qui accueille donc des universitaires et des artistes en danger dans du monde entier.
Quelle en a été la justification ?
Je ne crois pas qu'il y ait de justification, mais de toute façon, la politique française a été très erratique. Alors d'abord, elle s'est heurtée à toutes les difficultés que Israël mettait sur sa route pour faire évacuer des Gazaouis pendant la guerre, au moment où ils étaient le plus en danger. Et puis, il y a eu cette affaire de l'étudiante palestinienne qui avait publié des tweets antisémites, affreux, et qui a été expulsé vers le Qatar. Et donc là, il y a eu une sorte de punition collective, puisque cette étudiante avait fauté, eh bien, on a suspendu pendant plusieurs mois toute la venue de candidats gazaouis. Et il y a des gens qui sont attendus dans les universités françaises, des étudiants, des universitaires, et qui sont toujours bloqués à Gaza.
Bélir Nabli.
Gaza restera quand même un moment important dans l'histoire diplomatique de notre pays, dans la mesure où on s'est retrouvé dans une situation de contradiction entre discours officiel et traditionnel de la diplomatie française, consistant non seulement à s'appuyer sur le multilatéralisme, mais aussi sur le respect du droit international. Ce qu'a rappelé le président Macron hier à Davos ou avant-hier pour bien se départir du discours trumpien, en soulignant qu'on avait basculé dans un autre monde où le droit international n'avait plus droit de cité, pour s'en plaindre. Le problème, c'est qu'on n'est plus crédible sur ce plan, notamment à cause de notre discours à géométrie variable, notre duplicité, notamment dans le principe de respect du droit international. On a été exemplaire de ce point de vue-là, notamment par rapport à l'agression vécue par les Ukrainiens suite à l'invasion russe. En revanche, la manière dont on a pu qualifier les faits, la situation à Gaza du point de vue du droit international était non seulement en deçà, mais pas du tout au niveau du principe du respect du droit international. Non seulement on ne qualifiait pas les faits du point de vue du droit international, mais pire, on a tendu à ne pas respecter le droit international, puisque je rappelle que, d'après la Cour internationale de justice, les ordonnances qu'elle a rendues suite à sa saisine pour génocide à l'encontre d'Israël, la Cour internationale de justice oblige tous les États à tenter de faire cesser les actes commis par Israël et tendant à réaliser un génocide. Or, nous n'avons pratiquement rien fait, y compris sur le plan humanitaire, y compris pour faire respecter le droit international. Je ne reviens pas sur la question des fournitures d'armes. Il y a toute une polémique autour de cette question, dans la mesure où le ministère de la Défense ne reconnaît pas le fait que nous continuions à fournir des armes à Israël. C'est une question pour le moins discutable, enfin une réponse pour le moins discutable, eu égard à certains éléments de fait.
Merci beaucoup à tous les deux, Laetitia Bucaille et Bélire Nabli. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Mathias Mégis, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancé, Antoine Héral. Et à suivre, après le journal, les écrivains collaborateurs, quel cancel culture au sortir de la Seconde Guerre mondiale.